Isabelle Fontaine, bon matin.
Quelle entrée en matière.
Ah oui, je suis désolé.
J'imagine qu'il n'y avait pas de reçu pour réclamer les assurances non plus. Hein?
Je sais pas. C'était pas spécifié. Non, mais c'est parce que, écoute, mais à l'heure des réseaux sociaux, je me dis, il me semble qu'on aurait pu fonctionner avec, je sais pas, PayPass, le PayPal également, tout le kit. Non, c'était content. Isabelle, voilà. Ce matin, écoute, il n'y aura pas. Je pense que ce n'est pas un passage qui sera beaucoup emprunté. Par les parlementaires, on parlait de réformer le mode de scrutin, de rendre ça... L'idée, c'est toujours de dire que toi qui es dans ta voiture, qui nous écoute ce matin, quand tu vas faire ton vote, on veut que ça compte le plus possible. Les gens, des fois, ont l'impression que leur vote compte, mais pas tant que ça. Donc, on veut rendre ça le plus proportionnel possible, mais ouh,
écoute,
ça change la donne, hein?
Je vais revenir là-dessus, là, parce que c'est ce qu'on prétend, veut rendre ça le plus proportionnel, mais j'ai pas l'impression que ça règle des problèmes de façon aussi évidente que ça. Mais revenons sur pourquoi je t'en parle de ce matin de la réforme du mode de scrutin. C'est parce que dans la presse, ce matin, Denis Lessard rapporte que finalement, Sonia Lebel, hein, qui est en charge de ce dossier-là, notamment la ministre de la Justice, a présenté hier au caucus des députés de la CAQ son projet de réforme du mode de scrutin. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Un petit rappel, juste avant les élections, il y a eu un engagement solennel de QS, du PQ et de la CAQ ensemble, une déclaration comme quoi si l'un d'entre eux était élu, ils allaient procéder avec la collaboration des deux autres à la réforme du mode de scrutin. Engagement auquel les libéraux ont refusé de se joindre. Puis on a vu, hein, c'est un engagement facile à prendre. C'est dans l'air depuis longtemps. Il y a certains groupes qui militent en faveur de la réforme du mode de scrutin, le mouvement Démocratie Nouvelle notamment. Donc c'est un bel engagement à prendre, mais en même temps pas vraiment facile à réaliser. Justin Trudeau s'est cassé la margoulette, comme on dirait, sur cet enjeu-là. On le sait, ça fera partie des engagements électoraux de la dernière campagne qu'il n'aura pas respecté, puis qu'il a abandonné rapidement.
Oui.
Mentionnons-le. Fait que la proposition qui a été présentée hier, ce qu'on nous rapporte, c'est qu'on garderait 125 députés. Sauf qu'il y en aurait seulement 80 qui seraient des députés de circonscription comme on les connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, ce seraient les 78 circonscriptions fédérales qui deviendraient aussi des circonscriptions provinciales, plus Ungava, plus les îles de la Madeleine, pour faire 80, et 40 députés qui seraient des députés de liste. Donc, en fonction, dans les régions, du pourcentage de vote obtenu par les partis, il y aurait plus ou moins de ces sièges-là qui seraient attribués à l'un ou l'autre des députés.
Okay.
Ce que ça fait, là, c'est que ça prendrait pour avoir un gouvernement majoritaire à peu près 42 %. C'est un peu là où le bas blesse. Hein? La CAQ a eu une très grande majorité de députés avec 37 % du vote. Et donc, là, avec ce nouveau mode-là qui est proposé par Sonia Lebel...
Ils auraient été minoritaires.
Ils n'auraient eu que 60 sièges. Puis là, ça change tout, là.
Mais ça change tout, certain, parce que minoritaire, ben, tu dois obtenir au moins toujours l'appui d'un autre parti pour tous tes projets que tu fais voter. Mais c'est surtout que... J'essaie de prendre un peu de recul, là. Imagine si la CAQ, avec le résultat qu'ils ont eu lors de la dernière élection, on s'entend qu'ils avaient un fort consensus pour eux, là. Les gens étaient... Ça n'a pas été serré, là. Imagine si la CAQ, dans un contexte comme ça, n'est pas capable d'être majoritaire, c'est la fin des gouvernements majoritaires. Là.
En fait, c'est ça. Ça crée une très grande instabilité dans le système politique. T'sais. Puis si je reviens à ce que tu disais d'entrée de jeu, c'est de bon aloi d'être en faveur de la réforme du mode de scrutin. On a l'impression que ça va donner plus de valeur au vote. Mais quand tu prends un peu de recul, tu te demandes, OK, qu'est-ce qu'on essaye vraiment de régler? On dit souvent qu'il manque de proximité entre les citoyens puis le pouvoir. Mais là, dans la proposition qu'on a, on agrandit la taille des circonscriptions. Donc, les 80 députés qui seraient des députés liés à une population d'un territoire défini, il y aurait un plus grand territoire puis plus de monde. Donc, on les éloigne finalement,
c'est sûr,
puisqu'on augmente le groupe qu'ils représentent. Puis, tu aurais 40 autres élus qui, eux, auraient aucun attachement territorial. Le seul attachement qu'ils auraient, c'est celui, l'attachement partisan. Donc là, on augmente, dans le fond,
le concept de la partisanerie.
Puis, on détache l'élu d'un territoire ou d'un groupe de citoyens. Fait que là, il n'est plus l'élu d'un groupe de citoyens, il est l'élu de l'ensemble du Québec, mais dans les faits, affilié très fortement à un parti politique. Fait que je pense que là, dans rapprocher les citoyens du pouvoir, c'est pas vraiment une solution.
Puis l'ironie là-dedans, là, c'est que la population se plaint beaucoup de, justement, de cette partisanerie, tu sais, des chicanes, puis ça fait partie du cynisme ambiant. Bien là, tu l'augmentes.
Puis, tu sais, la population se plaint aussi que le gouvernement, c'est pas toujours efficace, que c'est difficile de prendre des décisions. Mais là, si par un nouveau système électoral, tu augmentes le nombre de gouvernements minoritaires,
as-tu l'impression, moi,
ça va être
encore
plus compliqué de gouverner.
Ouais, as-tu l'impression qu'on serait capable, parce que là, si tu fais quelque chose comme ça, tu passes complètement à autre chose. Est-ce qu'on est capable de gouverner dans un mode coopératif? Penses-tu que c'est C'est illusoire de croire que ça se ferait.
Ben, moi, je pense que ce serait quand même difficile. Tu sais, soyons réalistes. Là. En plus, le problème, c'est que notre système parlementaire, il est fait pour qu'on ait des députés représentant des territoires. Puis, il est aussi fait appuyer sur le débat. Tu sais, on trouve ça dur parfois regarder les débats à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Mais il reste que notre système parlementaire est organisé pour qu'il y ait un parti au pouvoir ou une majorité qui décide ou qui oriente et une opposition qui fait valoir d'autres points de vue, qui perd une espèce de contrepoids, améliore autant que possible les projets de loi ou les décisions. Moi, je me dis, peut-être que la meilleure façon d'améliorer les choses en termes d'efficacité, pensons d'abord à séparer le pouvoir législatif puis le pouvoir exécutif. Tu sais, un peu comme en France ou aux États-Unis où là, tu as un système présidentiel. Donc, ici, au Québec, tes ministres ne seraient pas nécessairement des députés. Donc, tes députés prendraient les décisions législatives, adopter les lois et tout ça, et les ministres prendraient les décisions exécutives. Donc, le budget, les dépenses, tout ça. Donc, on pourrait les séparer. C'est sûr que là, je dis ça, ça paraît simple. Le problème, c'est qu'on est encore dans un régime britannique puis que le chef d'État au Québec, au Canada, c'est encore la reine d'Angleterre.
Ouais, donc,
c'est sûr qu'il y a un petit enjeu là. Mm-hmm. Mais quand même, peut-être que là, ça améliorait l'efficacité. Puis le troisième point que je voulais t'apporter ce matin, c'est qu'on a longtemps dit hein, que le mode de scrutin était un frein à l'émergence de nouveaux partis politiques ou de nouvelles forces. Puis là, je pense que dans les dernières années, avec l'arrivée de la CAQ, avec l'arrivée de QS, on a quand même prouvé que c'était pas vraiment le cas puis que c'était possible d'avoir une nouvelle force politique, de nouveaux partis qui émergent dans le système avec ce mode de scrutin ici.
Puis à quatre parties, honnêtement, toi et moi, relativement sérieux, tu sais, à un moment donné, tu dois trouver ta voie quelque part. Là, on n'aura pas non plus des parties à l'infini. La bonne et la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est de un, ça passera pas parce qu'il y a trop de monde qui perdrait leur job.
Bien, en fait, il y a ça. D'abord, là, c'est une proposition. Évidemment, c'est pas juste que tout le monde, il y a des gens qui perdraient leur job. Évidemment, à partir du moment où on aurait ce système-là, après ça, il faut décider lesquels députés restent députés de territoire et lesquels s'en vont sur une liste et seront-ils devancés par des candidatures vedettes. Tu sais, il y aura aussi la tractation. Chacun a son intérêt personnel, évidemment. Mais il y a aussi le fait que le DGE a déjà dit il y a quelques semaines qu'il y aurait besoin d'au moins 30 mois pour implanter un nouveau mode de scrutin à partir du moment où l'Assemblée nationale l'aurait adopté. Mm-hmm. Là, on en est juste à la proposition interne à la CAQ, c'est même pas encore un projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc, c'est carrément impossible que ça soit en vigueur pour la prochaine élection. Après ça, il y a dans l'air la question d'un référendum. Est-ce qu'on devrait soumettre ce nouveau mode de scrutin-là à un référendum de la population pour l'appuyer? C'est une excellente question, mais Denis Lessard rappelait aussi ce matin que à l'Île-du-Prince-Édouard et en Colombie-Britannique, on a fait ça, soumettre une proposition de réforme du mode de scrutin à la population par référendum. Et dans les deux cas, la réforme a été rejetée.
C'était plein de bonne volonté, là, mais ce qui est plate pour le citoyen, c'est qu'en bout de ligne, on tourne en rond et ça fait pas mal de niaisage.
Et est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt du citoyen? C'est la première question qu'il faut se poser.
Pense pas. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci à toi.
On se reparle demain.
À demain.